C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Ah, j'avais hâte de te parler ce matin. Qu'est-ce que tu as retenu du budget?
Première des choses, on parle beaucoup des baisses d'impôts pour, entre guillemets, les mieux nantis, là, que plus tu gagnes de revenus, plus tu as de baisses d'impôts ou de remboursements, si tu veux, éventuellement. Mais quand on y pense, on peut pas dire que le gouvernement, si on est honnête intellectuellement, ne fait que redonner aux mieux nantis parce que, d'un côté, tu te baisses les deux premiers paliers d'impôts de 1%. Oui, ça peut être dommageable pour le futur parce qu'on peut peut-être en avoir besoin. De l'autre côté, on fait-tu la liste de ce qui est de l'autre bord? On bonifie le crédit d'impôt pour solidarité. On investit 650 millions sur 6 ans pour les logements sociaux abordables. On dit qu'on va faire un projet pilote pour 25 000 personnes démunies à déclaration simple pour leur préparer leur déclaration de revenus automatiquement dans un projet pilote. On continue à indexer les allocations du gouvernement. On continue à donner des garderies subventionnées. On continue à donner des chèques. Donc, au total, là, il va falloir demander qu'on comprenne que c'est normal qu'une baisse d'impôts n'affecte pas autant les démunis ou les moins nantis que les mieux nantis parce que les moins nantis n'en paient pas. Il y a une grande portion des Québécois qui ont de l'impôt négatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans leur situation avec des enfants, des fois, qu'il y a l'équivalent d'un deuxième salaire qui rentre dans la maison, même si la deuxième personne n'existe pas. Et donc, faut arrêter de jouer cette guerre-là entre les deux. Ça, c'est l'affaire qui me chicote, mais effectivement, d'un point de vue économique, baisser les impôts de quelques piastres pour tout le monde qui paie de l'impôt, tout de suite, dans notre portefeuille, ça ne change pas grand-chose. Mais dans le futur, le signal que ça envoie, c'est que s'il faut changer d'idée plus tard, ça va être vraiment plus difficile. Là, tu nous as redonné notre bonbon, là, notre café. Là,
tu veux dire que s'il faut augmenter les impôts nouveaux, c'est plus dur à vendre. Là.
Ben oui, les impôts et les taxes. Ouais, tandis que quand tu es déjà habitué de payer, c'est comme une douleur, que t'es, une gestion de la douleur, comme diraient les médecins, on est habitué. Deuxième point intéressant, le régime des rentes du Québec, Paul, évidemment, je m'en vais tranquillement vers la retraite, j'ai 43 ans. Et là, le gouvernement me dit qu'ils vont maintenir l'âge minimal pour encaisser les prestations du RRQ à 60 ans, donc il n'y aura pas de décalage, qu'on va continuer à 65 ans à avoir le même montant. Mais on me dit qu'après 65 ans, si je suis motivé puis que ça me tente de continuer à travailler, je vais avoir le droit de ne plus cotiser au RRQ et de bonifier mon régime si ça me tente. Et on va aussi me permettre d'étirer le moment où je vais retirer mon RRQ à 72 ans. Ça, c'est intéressant parce que ça va bonifier, évidemment, jusqu'à 72 ans. On envoie un signal aussi sur les garderies. Hein.
Juste avant, ça veut dire que ça, c'est à partir du 1er janvier, je pense. Hein?
Ben, ça veut dire que ça, j'ai pas vérifié.
Oui, ben, je vais demander au ministre pour être bien sûr, mais il me semble que j'ai vu qu'à partir du 1er janvier, tu peux demander à l'employeur de pas faire la...
Le 1er janvier de cette année rétroactif ou l'année prochaine?
C'est ça qui est pas clair.
Ah, OK, on va y demander. Hein?
Ouais.
conversion des garderies, ça, c'est intéressant. Il y a un petit geste là, de dire on va convertir du privé en subventionné, du privé en privé. La question, c'est au bout, on va aller dans un régime 100% public, là. Alors là, il y a des modèles d'affaires qui vont changer parce que présentement, il y a des avantages stratégiques d'avoir certaines garderies par rapport à d'autres. Et c'est l'aveu du gouvernement qu'on va laisser tomber une bonne partie d'argent au fédéral parce qu'avant, les contribuables qui payaient au privé avaient une déduction et le fédéral nous renvoyait de l'argent aux contribuables. Là, c'est le gouvernement qui va payer. Donc, il va falloir qu'il négocie ça comme il faut. On voit aussi dans le budget qu'il y a 30 milliards qui viennent d'Ottawa. Moi, ça me frappe là, de dire que on équilibre notre budget, mais on a besoin de 30 milliards d'Ottawa. Donc, on a une certaine dépendance de cette négociation-là qui s'en vient. Le fonds de l'FTQ, changement majeur, même si peu de gens en ont fait état, c'est que disons que le gouvernement dit, écoute, là, des retraités là, qui étaient à 2-3 ans de la retraite puis qui cotisaient au fonds de l'FTQ pour leur tirer 3 ans plus tard tout en bénéficiant d'un crédit d'impôt pour capital de risque, on veut arrêter ça, on veut faire passer du délai minimum de 2 ans à 5 ans. Donc, progressivement, on va dire, faut que tu laisses ton argent au moins 5 ans dans le fonds, même si tu as atteint l'âge des retraits. Et l'autre affaire qui est intéressante, c'est qu'on va aller jouer dans ce dans quoi le fonds doit investir. Donc, attendez-vous à des fonds de fonds de travailleurs puis fonds des jardins plus nationalistes, plus québécois et plus à risque sur les PME et les grandes PME.
Je voulais dire, c'est ça où ils risquent de perdre leur statut, non?
Exact. Puis tu sais, on va être honnête, là. Faut qu'il y ait ce genre d'argument-là, parce que si je te donne un crédit pour investir dans du capital de risque, faut que ce soit du capital de risque puis que ça profite à la province, je suis pas trop contre. Par contre, le plafond de 112 000, ça me chicote. On vient encore dire, bon, là, il y avait des gens qui investissaient là-dedans, qui avaient des revenus, là, on va plafonner avait des revenus de 112 000. Si tu as plus que 112 000 et des poussières, tu pourras plus contribuer au fonds de FTQ parce qu'on avait des problèmes les dernières années. On avait trop d'argent qui voulait rentrer puis on n'avait pas assez d'investissement potentiel. Donc là, on va plafonner les gens qui ont droit de contribuer. Donc, je viens de perdre mon droit, Paul, et bon, je vais dire merci à la CAQ, mais bon. Autre point, augmentation de rémunération offerte aux employés de l'État.
Ouais.
Là, il y a quand même une page qui dit clairement, le gouvernement va augmenter de 11,5% sur 5 ans les employés de l'État, va donner un montant forfaitaire, il va avoir 9% de paramètres salariales, puis des augmentations sur 5 ans qui visent des priorités gouvernementales. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est le biais d'ancrage du gouvernement à partir de maintenant. À partir de maintenant, les syndicats regardent cette page-là puis disent « ça, c'est notre minimum ». J'espère que le gouvernement est conscient de ça, parce que dans la provision qu'ils ont pris pour les éventualités de l'économie, il va avoir ça. Congé fiscal pour les grands projets, évidemment, on veut tasser l'aluminium, mais c'est évidemment une façon de dire qu'on va faire du leurre fiscal. On va aller chercher des investissements, peut-être pour le lithium, les batteries, je sais pas quoi, en allant subventionner implicitement les entreprises. Ça, c'est un choix très caquiste parce que Québec solidaire ferait pas ça, je pense, de subventionner les grandes entreprises pour investir. C'est un choix qui est politique. On peut en discuter longtemps, mais j'ai beaucoup de misère à tout le temps se mettre à genoux devant les entreprises. Moi, j'aime mieux faire la promotion de ce qu'on a de riche, comme notre main-d'œuvre pas chère, notre électricité. L'autre point, j'ai 43 ans, Paul. Dans 7 ans, je vais avoir une gratuité de plus. Hein.
Laquelle?
Le Zona. On va me vacciner pour le Zona gratis. C'est dans le budget. Ça doit être un enjeu assez important pour qu'on le souligne. Je pense qu'on voulait que les gens se fassent vacciner pour éviter des traitements. Puis pour dire, si on le met gratuit à partir de 50 ans, plus de gens vont aller le faire de façon préventive. Réduire l'écart entre le privé et le public, je ne sais pas si tu as remarqué, là, il y a une virgule dans le budget. On veut que les programmes publics secondaires aient tous une option spéciale pour les étudiants. C'est comme une façon de mettre du marketing. Fait que toutes les écoles publiques là, vont avoir une petite option théâtre, une petite option, je sais pas moi, environnement, une option quelque chose pour que l'étudiant soit motivé. Et on va subventionner davantage l'industrie du livre, une virgule. On augmente les crédits d'impôt aux frais d'impression parce qu'évidemment, le coût du papier a augmenté, etc. Il y a plein de petites affaires de même. Mais en gros, ce qu'on retient, c'est quoi? Je le disais hier. C'est comme quand t'es dans la rue puis tu vois une Honda Civic avec un gros aileron surdimensionné. Mais la baisse d'impôt, c'est l'aileron surdimensionné. Puis le reste du budget, ben, c'est une Honda Civic. Hein. C'est commun, on est habitué, puis on s'applaudit, puis on passe à l'année prochaine.
Merci, monsieur.
Salut.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
On va cette fois parler du rapport sur les changements climatiques qui a été présenté hier par les scientifiques du GIEC. En fait, ils ont regardé toutes les études et ils ont tiré leurs conclusions. Et je l'ai dit une fois de plus, ce sont des avertissements qui sont adressés à qui? Aux décideurs, aux citoyens, bien sûr, mais surtout aux décideurs en disant « Vous annoncez des cibles, vous annoncez des stratégies ». Et on se rend compte que, malheureusement, l'espèce de décompte s'accélère. Alain Bourque est avec nous, directeur général d'Uranos. Monsieur Bourque, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce que vous retenez surtout de ce nouveau rapport du GIEC?
Naturellement, pour les scientifiques du changement climatique, il n'y a rien de trop surprenant par rapport au constat initial des impacts qui sont en cours puis de l'aggravation des changements climatiques. Par contre, ce que je trouve plus intéressant, c'est que les rapports du GIEC prennent de plus en plus des approches solutions, c'est-à-dire on a en gros réussi à identifier autant pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre que pour l'adaptation, c'est-à-dire la portion d'apprendre à vivre avec une partie du changement climatique qui est devenue irréversible, qu'il y a des solutions qui ont déjà été mises en place à petite échelle dans différentes régions du monde et qui fonctionnent. Et là, un des gros défis que l'on a, c'est de mettre ça à l'échelle de toute la population, de réussir à systématiser l'utilisation de nouvelles pratiques en aménagement du territoire, en nouvelles technologies d'électrification, en nouvelles politiques d'aménagement du territoire pour à la fois réduire les transports et les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi réduire les risques face aux inondations ou aux tempêtes violentes qui peuvent causer des dommages, etc. Et donc, c'est là, c'est pour ça que vous parliez de l'importance des décideurs, c'est que les gouvernements peuvent jouer un rôle structurant majeur pour réussir à relever le défi des changements climatiques qui doit être relevé dans les 20 prochaines années. Si on veut réussir à contrôler le changement climatique à 1,5 degré à l'échelle de la planète, il faut agir dans les deux prochaines décennies.
Bon, justement, puis on regardera les solutions après, mais ce que je voyais hier comme analyse, c'était de dire, nous sommes en 2023. Les dernières années, on a vu, par exemple, des étés extrêmement chauds. Là, prenons que l'été dernier en Europe. Puis on voit la tendance depuis quelques années, des événements météo plus extrêmes. On a encore vu ça en Californie. On a vu de la neige à des endroits où il n'y en a pas. Puis bon, les citoyens sont de plus en plus conscients. Et un de vos collègues experts disait... Ben, ce qui est arrivé en 2022, ça sera rien par rapport à 2030, 2035. C'est-à-dire que ces phénomènes-là vont continuer de progresser.
Tout à fait. Et ça, c'est vraiment le côté moins bonne nouvelle, là. C'est-à-dire que même si on réduit les émissions de gaz à effet de serre par magie dès demain matin, là, le climat va continuer de... Le changement climatique va continuer de s'amplifier. Donc, plus d'extrêmes, des canicules toujours plus sévères. Au moins pour les 20 prochaines années. C'est clairement, si on s'inquiète des événements extrêmes en 2022, là, puis en 2023, ça va pas s'améliorer à court terme. Naturellement, il faut pas non plus baisser les bras parce que justement, notre objectif, c'est de tenter de stabiliser le climat dans 20 ans pour, oui, voir une aggravation à court terme, mais pour viser une stabilisation, voire même une amélioration à moyen et long terme.
Bon, justement, parlons-en des stratégies, qui consistent à s'adapter. Puis c'est surtout frappant quand on voit, là, je regardais des chiffres, c'est finalement un pourcentage, quoi, 10% de la population mondiale qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre dans une proportion de quoi, 40%?
Oui, c'est à peu près ça. En fait, c'est les pays développés qui assument la grande responsabilité des émissions historiques. Et puis, ironiquement, ceux qui se font frapper le plus durement par les changements climatiques sont souvent des pays vulnérables, des gens qui ont émis presque pas d'émissions de gaz à effet de serre dans leur histoire.
Mais ça veut dire, M. Bourque, que ça suppose des changements rapides, des changements dans nos façons de vivre en termes de transport, en termes de consommation. C'est par là que ça passe. Puis il faut s'ajuster, s'adapter, puis adapter les infrastructures à ces changements climatiques irréversibles.
Oui, tout à fait. Au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut complètement repenser notre consommation d'énergie. Tu sais, même pour le Québec, là, il y a certains exemples encourageants. Faut juste regarder ce qui se fait en Europe par rapport aux transports en commun, qui sont complètement différents. L'aménagement du territoire qui favorise la proximité pour les déplacements, etc. Et puis pour l'adaptation, ben, il faut repenser l'aménagement proche des zones inondables, des zones d'érosion côtière. Il faut transformer nos ville pour qu'elle soit plus verte ou plus habituée à voir des canicules qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant et qu'on voit de plus en plus, etc. Et ça, on peut pas le faire. C'est sûr que chaque citoyen a son rôle à jouer puis peut faire des choses. Mais encore une fois, on revient. Le gouvernement a un rôle majeur tous les paliers de gouvernement ont des rôles majeurs à jouer pour justement revoir l'aménagement du territoire, prévoir comment qu'on planifie les quartiers, réinvestir davantage dans les transports en commun, dans le transport actif, plutôt que de favoriser l'utilisation de l'automobile qui consomme beaucoup d'énergie et qui génère des gaz à effet de serre. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. La beauté de la chose, c'est que les rapports du GIEC sont assez clairs. On sait quoi faire. Il faut juste réussir à le mettre en place.
Mais vous savez, en terminant, c'est que année après année, moi, je vois les ministres de l'Environnement puis les premiers ministres au fédéral, à Québec, partout, là, nous annoncer des cibles à atteindre puis des moyens à coups de milliards. Puis là, tu fais le bilan 2 ans après, tu dis, ben non, ça n'a pas été atteint. On s'était donné à Kyoto des... C'est comme si le discours officiel politique... C'est de dire oui, oui, on a compris et on y va, mais dans les faits, les résultats sont pas au rendez-vous.
Ben en fait, les résultats sont, je dirais, au tiers au rendez-vous. Okay. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de régions dans le monde qui ont réussi à stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre, voire même commencer à les diminuer. Alors le défi, c'est que ça ne va pas à la vitesse requise par rapport à l'ampleur des changements climatiques. Et l'autre défi, c'est que les décideurs semblent davantage attirés à faire des annonces et des investissements pour des technologies qui semblent être peut-être des solutions dans 30 ans, alors qu'ils ne prennent pas les décisions plus difficiles en lien avec le transport à court terme qui pourraient permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus rapidement.
Monsieur Bourque, toujours un plaisir. Merci beaucoup.
C'est au plaisir. Bonjour.
Au revoir. Alain Bourque est le directeur général d'Uranos.
Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca
ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Notre invité est en train de redémarrer sa carrière après une pause forcée. On se souvient tous de la série d'articles dans Le Devoir qui avait amené donc cette pause, cette annulation, c'est le terme souvent utilisé. Julien Lacroix est avec nous. Julien Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous arrivez avec podcast, avec série web. On dirait que vous prenez ça tranquillement, là, pas trop vite. C'était un départ là, avec une offre modérée.
Ben, c'était important pour mon équilibre mental aussi d'y aller tranquillement parce que je réapprivoise mon travail, je réapprivoise la discussion avec le public, voir s'ils sont au rendez-vous. Puis oui, j'y vais tranquillement avec des nouveaux barèmes, mais j'ai du plaisir à le faire.
OK. Comment ça se passe, justement, ce contact à nouveau avec le public?
C'est drôle parce que quand j'ai dit à ma conjointe que je voulais refaire ça dans la vie puis que j'allais foncer, j'y ai comme dit aussi, si le public est pas au rendez-vous, je vais arrêter ça. Je vous forcerai pas à vivre tout ça. Puis force est d'admettre que les gens sont au rendez-vous, autant avec les petits spectacles, autant sur le web. Puis ça me fascine les discussions qu'on a, autant pendant le spectacle qu'après. Les gens qui m'écrivent des commentaires, souvent en privé parce qu'ils ont peur des répercussions, mais ça me fascine puis je trouve ça vraiment intéressant puis beau d'entendre ça puis de voir que ce qu'on lit souvent ou ce qui les gens qui crient souvent leurs opinions ou qu'est-ce qu'ils en pensent, ben c'est pas la majorité des gens.
Mais vous avez fait une démarche personnelle là, vous l'avez dit Stéphane Bureau entre autres que ça a été bon extrêmement difficile cette série dans Le Devoir, il y a eu cette entrevue au Devoir, il y a eu des plaignantes entre guillemets qui se sont exprimées dans le cadre de ce reportage d'une collègue ici Marie-Ève et Isabelle Haché. Il y a eu toutes ces démarches-là qui ont été faites, et ça vous a forcé à prendre conscience d'un certain nombre de choses, finalement, sur votre personnalité, puis à changer votre façon de vivre.
Ben oui, mais dès le jour 1, je le dis, je le redis, mais j'avais des problèmes, j'étais problématique, puis les choses changent, évoluent, puis tant mieux. Puis oui, j'ai pris conscience de des choses qui se font plus, qui se disent plus. Puis je veux pas encore soucier l'alcool que j'ai arrêté, puis pour le mieux. Puis je pense que là, j'ai accueilli un enfant, j'ai accueilli plein de nouvelles personnes dans ma vie, puis je peux le faire de façon beaucoup plus sereine par rapport à tout ça. Puis voilà, puis il y a aussi beaucoup de choses qui se sont dites par rapport justement à ces femmes-là qui ont participé à l'enquête initiale du Devoir. Puis moi, je leur en ai jamais voulu d'avoir participé à ça. Tu sais, on se rappelle qu'on est en 2020, qu'il y a une vague de dénonciations, qu'on cherche aussi à... Il y avait beaucoup de têtes qui tombaient et tout. Puis on disait à ces femmes-là à l'époque, quand Le Devoir recrutait des gens, on leur disait « Ton histoire est pas si pire, mais il y a pire à côté pour gonfler un nombre. » Tu sais, c'était ça initialement. Puis on a fait des amalgames, on a fait des choses. C'est ce qui m'a frustré de cette enquête-là. Puis ce qui m'a frustré aussi du Devoir, c'est que par la suite, ils ont non seulement pas voulu s'excuser ou répondre aux questions des journalistes, mais ils ont gardé leur point même quand des gens à l'interne ont dit qu'ils étaient mal à l'aise avec la démarche. Moi, c'est ce que je dénonçais par rapport à ça. Mais si on ramène ça au jeu, oui, effectivement, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Puis j'ai fait amende honorable, j'ai parlé avec ceux qui voulaient me parler, j'ai proposé de la médiation à ceux qui voulaient bien en faire. Puis il y a des gens qui voulaient pas, il y a des gens qui voulaient, puis voilà.
Vous avez parlé de la réaction du public. Êtes-vous, puis là c'est le public qui décide en bout de ligne tout le temps, t'sais, ils ont le droit de vous regarder, d'adhérer à votre démarche ou pas. Avec le milieu, ça se passe comment? C'est le milieu de l'humour et du spectacle.
C'est vraiment délicat parce que effectivement c'est le public qui a le dernier mot. De pourquoi moi je suis contre la cancel culture parce que quand on cancelle quelqu'un au complet, on donne pas le choix au public. Tu sais, même en ce moment j'ai de la misère à me trouver des salles pour aller présenter un spectacle. Puis après ça on dit ok c'est au public de choisir, mais pas vraiment dans cette circonstance-là parce que si on laisse pas quelqu'un monter sur scène, ben tu sais.
Mais là, je vais faire une parenthèse puis peut-être vous avez pas la réponse, mais comment ça se fait qu'Éric Lapointe, qui était reconnu coupable de violence conjugale, lui donne des spectacles, il n'a pas l'air d'avoir de misère à se trouver des scènes,
Ben moi c'est j'ai eu beaucoup de discussions parce que tu sais j'ai fait une tournée en solo, j'ai fait une tournée à l'époque aussi en doublé, puis j'y connais les diffuseurs, les gens qui sont propriétaires des salles, puis eux sont mal à l'aise parce qu'ils se retrouvent avec un genre de ils doivent être juges de choisir OK cet artiste là peut, cet artiste là peut pas, puis c'est le problème de la justice sociale comme ça, c'est qu'on met tout le monde dans le même bateau et lui on veut pas le voir, lui on veut le voir, puis effectivement, il y a un problème avec ça, puis c'est pas à eux d'avoir cette responsabilité là. Maintenant, je pense que ça évolue, il y a eu des discussions à Rideau qui est comme un peu le meeting de toutes les salles de spectacle, ils en ont discuté, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être fait dans ce sens-là parce que effectivement, c'est au public de choisir, si la salle est vide, je vais plus gosser personne pour faire des spectacles.
Est-ce que c'est l'objectif de dire ben, j'aimerais ça reprendre, pas tout de suite, là, vous y allez par étapes, mais ultimement, retourner faire des festivals, retourner faire une tournée comme ça à travers le Québec, reprendre la carrière là où vous l'aviez à ce moment-là?
Ben moi, j'ai fait le deuil de beaucoup de choses, tu sais, puis je pense que refaire de la scène, refaire une tournée, oui, c'est dans mes plans. Après ça, non, j'animerai pas les Gémeaux demain matin, puis je serai pas au Trichard cette semaine, tu sais. Puis ça me va. Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je propose aux gens des trucs sur Internet qui sont pas obligés d'aller voir si ça les intéresse pas. Même chose, tu sais, je force personne à venir me voir en spectacle. J'aimerais ça juste vivre de mon métier, puis être heureux là-dedans.
On va écouter un extrait. La bande-annonce, j'ai écouté... C'est une série web, vous allez voir, c'est assez pété.
Tu n'es pas champion, tu le deviens. C'est officiel! Le condo est vendu. Je m'en vais on the road sur les routes du Québec. I'm an influencer. C'est quoi de prendre des petits moments pour juste nettoyer notre environnement? On a une planète.
Alors, c'est Pongo.
Pongo, oui.
Un influenceur.
Oui, c'est son cri de ralliement, c'est Pongo. Il s'appelle Pat Kerouac. Puis c'est un peu une parodie de ça, des influenceurs qui partent, dans ce cas-ci, en van life. Lui, il part à la quête du bonheur. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire puis à tourner ça. Initialement, je l'ai tourné que pour le fun parce que c'est ma passion. T'sais, si j'étais musicien, j'aurais écrit des tunes puis chanté dans mon sous-sol. Moi, j'ai tourné ça. Puis je ris des contradictions de notre génération.
Mais pourquoi les influenceurs puis pourquoi la vanne?
Ben il y a deux choses, c'est que tu sais maintenant je travaille avec des nouveaux barèmes, donc je suis seul devant l'écran. Pourquoi la vanne? Parce que ça me permettait d'avoir un lieu mobile, donc de changer de lieu sans avoir des locations ou d'impliquer des commerces ou peu importe dans cette série-là. Puis parce que dans les dernières années, j'ai vu beaucoup de contradictions sur les médias sociaux.
Comme quoi?
Puis ben juste d'être pro liberté d'expression mais pour la cancel culture, d'être pour l'écologie, mais contre les voyages, mais en même temps, tu fais des voyages dans le sud pour vendre des... Il y a plein de trucs comme ça qui me fascinent. Puis à travers Pongo, je me suis amusé à surfer là-dedans puis à rire de ça. Puis reste que c'est un format qu'on connaît de plus en plus puis qui était le fun à parodier puis à recréer un peu simili-documentaire. J'alterne entre la caméra puis le cellulaire. Voilà. Mais effectivement, je suis revenu aux sources. C'est un mélange d'absurde, parfois un petit peu cru, mais voilà, le personnage me fait bien rire.
Puis comment il va évoluer? Là, j'ai vu deux épisodes, là, mais comment vous le... il se promène, puis on le suit?
Oui, ben on le suit à travers... son évolution se fait à travers les commentaires sur les médias sociaux, parce que lui, il vit justement des j'aime des gens. Il vit des commentaires des gens, des compagnies qu'il sponsorise, puis de plus en plus, il réalise qu'il est en... Il est pas si heureux que ça finalement d'avoir des commentaires, puis il va se pogner contre je dirais pas le nom, mais contre un hater, puis ça va okay. Le faire évoluer là-dedans à travers sa quête.
J'imagine que ça votre vie vous a inspiré pas mal. Hein?
Ben c'est ça qu'on écrit à partir de ce qu'on vit, puis voilà. Ouais. Mais je voulais que ça reste léger quand même, puis c'est sur scène que j'aborde plus le sujet de la dernière année. En fiction comme ça, je voulais garder dans le plaisir puis l'humour.
Julien Lacroix, merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est disponible à partir d'aujourd'hui, je pense.
Oui, merci à vous de l'invitation.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Les
l'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Notre invité ce matin, Gildor Roy. Gildor, bonjour.
Paul Arcand, comment ça va?
Bien, toi?
Très bien, très bien.
Très content que tu sois là ce matin.
Moi de même.
27 avril, ce sera la dernière de la tour.
Oui.
Un an seulement.
Oui.
Comment t'as pris...
3 ans, le show, là. Moi,
oui, toi, avec toi, là.
Ben, écoute, si quelqu'un m'avait assis dans son bureau et m'avait dit, Gildor, t'es vraiment pourri, fait qu'on va arrêter le show, ça, c'est une chose, mais c'est dans un cadre de coupeur généralisé à TVA, là, ça fait partie de tout ça, fait que à la limite, je comprends ça, c'est de la business. Je trouve ça vraiment plate, parce que je commençais à avoir du fun vraiment avec l'équipe, c'est une gang formidable, mais toi, dans un an, 2 ans, c'est pas du micro que tu vas t'ennuyer, c'est du monde avec qui tu te
riches.
Ouais, c'est ça, même combat.
Comment t'as trouvé l'apprentissage? Parce que t'arrives dans une émission, c'était Patrick Huard qui l'avait fait 2 ans. Toi, t'arrives, tu venais de sortir de District 31. Comment ça s'est passé, l'ajustement de vie, si on veut, puis
ben,
de travail?
C'est une bébite étrange, la tour, parce que c'est un show de TV, mais c'est jamais mentionné que c'est un show de TV. On fait comme si c'était pas un show de TV. Fait que ça, il a fallu que je m'habitue à ça. Mais poser des questions à du monde avant une conversation, c'est la même chose partout, là, à mon sens, en tout cas. Fait que ça a pas été trop difficile. On a ajusté ben des affaires aussi. On a fait des changements dans la structure de l'émission, tranquillement. Puis on s'en allait vers quelque chose qui peut-être me ressemble. Plus, je sais pas trop, on le saura jamais. Mais j'ai eu des longues conversations avec des gens avec qui je pensais pas avoir de longues conversations un jour, comme par exemple toi.
Mm-hmm.
Ça, c'est un grand moment pour moi. J'ai interviewé Paul Arcand, moi, puis j'y ai fait faire un silence significatif.
C'est vrai. Puis les gens ont pas tout vu.
Non, mais non, c'est ils ont ça. Pas non, une chance, parce que là, il a fait, mon Dieu, il pleure donc bien beaucoup.
mais... C'est quand même, District 31, ça a été, c'est une série culte, là, c'est clair.
Souvent imité, jamais égalé.
Voilà. Même si l'auteur travaille sur une autre série.
Absolument.
Mais est-ce que t'es allé là trop vite?
Peut-être, oui. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre un break. Je pense pas que ça a affecté mon travail. J'espère que non, en tout cas. Mais en même temps, c'était tellement une belle occasion, puis une belle offre. Puis je savais que j'aurais du fun à faire ça. Peut-être j'aurais dû prendre 2-3 mois off, là. Mais sais-tu quoi? Je vais le faire, là. Fait que tout est bien qui finit bien.
T'as pas de projet, t'as rien?
Ouais. J'ai un film fin d'été.
Ça en plaît aussi.
Je suis encore porte-parole avec Barrette de Tite Frette,
ben
le
oui.
Magasin Tite Frette. Demain, j'ai un meeting. Je vais faire un documentaire cet été.
Est-ce qu'on peut savoir sur quoi?
Ça a rapport au monde agricole.
OK.
Fait que demain, je vais avoir un go ou un pas go de ça, mais je pense bien que ça va marcher. De la musique aussi. Hier, j'étais en réunion avec un réalisateur. On va reprendre toutes les tunes que j'ai faites, puis on va passer ça dans son tordeur à lui, puis on va voir comment ça va sortir. Fait que je vais avoir le temps là dans l'année qui vient de sortir des chansons tranquillement, enfin. T'sais.
Des nouvelles?
Ouais, des nouvelles. Ouais.
Je veux que t'entendes sur le documentaire. Je veux savoir, c'est quoi l'idée? C'est le monde agricole, OK, là, mais la relève, les...
Ah, comment je te dirais bien ça? Tu sais, il y a beaucoup d'artistes, personnalités, soudainement, ils deviennent vignerons, spécialistes du miel, puis moi, je fais le meilleur sirop. Fait qu'on va explorer ça un petit peu. Ce qui est un de mes dadas, c'est là, comme un produit qui est fait par quelqu'un de connu est-tu nécessairement meilleur que le produit sans nom? C'est ça le fond de l'histoire. On va voir où ça va nous amener, mais je pense qu'il y a de quoi faire avec ça.
OK. Et le film?
Aïe. Ça, tu sais comment c'est, hein? Moi, au Québec, le film, je le crois quand je le vois sur l'écran, mais ça a un rapport avec Hemingway, je peux dire ça, et ça va être tourné à Québec et en partie... dans les Caraïbes. Je vais arrêter là parce qu'ils vont me chicaner, ils vont m'appeler, ils vont me sacrer dehors. mais c'était un Moses de beau projet. Moses de beau projet. C'est pour ça que je me suis laissé pousser la barbe.
Ben oui, c'est vrai.
C'est pour ça. Et je suis allé cette semaine m'acheter des lames de rasoir, puis quand même me tripe.
T'as vu le prix?
8 lames, 35$, Paul!
Je sais, moi, je fais ça à chaque fois.
Finalement, je me suis acheté un chou-fleur, puis je le frotte fort. Tout ça à cause de Mesmer, j'en reviens pas.
Ça aussi, mais ça, on peut en discuter, ça, de Mesmer, si tu veux. Mais est-ce que tu dis, tu sais, je regarde tes projets, la musique, puis tout ça. Il y a dû des gens qui t'ont offert, qui t'ont approché pour des rôles dans des séries, de peut-être pas une quotidienne, mais...
Oui. Toutes sortes de rôles, puis de fonctions, puis de... Ouais. Mais... Je suis là-dedans, là, Paul.
OK.
Mais oui. C'est, garde, je suis un privilégié, moi, puis je m'ennuierai pas, puis ça va être correct. Je suis bien content, bien fier, bien reconnaissant de ça aussi. Mais il faut aussi savoir... Ben, tu vas le faire, toi, là, dans 2 ans.
Ouais, mais moi, c'est pas pareil. La radio, c'est différent. Mais tu sais, le commandant Chiasson, là, ouais. Penses-tu que les Québécois vont être capables de l'oublier, que tu vas pouvoir prendre un autre rôle bien différent, puis ils vont avoir toujours le commandant en tête?
C'est une bonne question, parce que le film, là, en question, si les gens voient ça puis sont pas capables de faire la différence entre les deux, je suis mieux d'arrêter de jouer. C'est tellement...
Différent, c'est deux affaires, deux univers.
Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai accepté de le faire aussi. C'est sûr que je vais slacker sa police pour un bout. Disons ça comme ça.
Il y a tes fans qui m'ont écrit ce matin.
Oh boy.
Des fans de ta musique.
Ouais.
Qui se demandent, tu as répondu partiellement en disant que tu reprenais puis tu vas en faire des nouvelles. Vas-tu partir faire des shows?
Ah oui. C'est pour ça que je veux recommencer à faire de la musique. Parce que le fun, c'est le fun en studio, puis écrire une chanson, faire « Oh, je la trouve pas pire, celle-là. » Mais le vrai plaisir, c'est sa scène avec le public. Cet échange-là, c'est comme les comédiens t'ont dit à un moment donné ou l'autre, là, le contact avec le public, quand on fait du théâtre, il n'y a rien qui bat ça. C'est la même chose en musique, là, tu sais. C'est le fun à en faire tout seul à la maison. Mais
aimes-tu mieux les grandes salles, les salles moyennes?
Moi, je pense que la plus grosse foule que j'ai faite, c'était dans le temps qu'il y avait des grosses Saint-Jean à Québec, ces grosses plaines d'Abraham, là, avant qu'ils réduisent le site. Puis je pense qu'il y avait eu 200 000 personnes une année. Puis, comme ça, Gildan Roy! Puis là, tu rentres sur la scène, puis tu sens l'énergie du monde, puis t'as de la misère à avancer. Ça, j'ai connu ça. Ça, c'est impressionnant. Puis quand les gens connaissent les paroles de ta chanson, puis sont 200 000 à chanter, ça replace les choses en perspective, disons. ouais, c'était cool, ça. C'était un beau souvenir.
Mais je t'écoute, là, tu ralentis pas pantoute, là. T'as beau me dire une pause, là, mais t'as beaucoup de choses quand même.
Oui, ben, Colin, on aime ça, ce qu'on fait. Tu sais, je vais finir la radio, me semble, tu sais, que tu vas être absent. Tout est comme le Céline, showbiz. Je vais prendre une année sabbatique, on l'a jamais autant vu que cette année-là. Mais on aime ça, ce qu'on fait. On serait fou de... Quoi, s'asseoir à la maison? Pis...
Je veux te parler de sport un peu, parce que je sais que
t'es passionné. Oui, tu qu'on parle de hockey?
Oui.
Yeah!
Le Canadien, t'en penses quoi?
Le Canadien a été mal dirigé pendant une couple d'années, ce qui fait que ça va avoir des répercussions pendant encore une couple d'années. Mais là, je pense qu'ils ont des bons boss qui savent ce qu'ils font. Martin Saint-Louis, bien surprenant comme coach. Mais ils rejoindront pas les Bruins pour une couple d'années. Là.
Comment ils vont, tes Bruins?
Comment dire ça? C'est les meilleurs! Mais je suis moi-même surpris. Je m'attendais à une année difficile des Blues. Mais Colin, je les ai regardés jouer hier soir encore. C'est une machine. Fait que d'habitude, quand ils ont des grosses saisons de même, ils se font sortir en première ronde. Fait que je m'attends au pire.
Tu t'attends au pire, je pense qu'ils vont planter en partant.
Les Blues s'attendent toujours au pire.
Qu'est-ce que tu as pensé de toute la saga de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puis les abus et le départ de Courtois, là, puis...
C'est drôle parce que j'ai rencontré Jonathan Roy une couple de jours après ça, puis on a jasé de ça, puis... Il dit, le monde a changé, mais dans des espèces de chasses gardées comme ça, ça change moins vite qu'ailleurs. C'est pas vrai que tous les petits gars qui jouent au hockey, c'est des violeurs en puissance, puis des gars... Mais il y a une culture, puis il faut l'admettre, elle existe, cette culture-là. Moi, je suis toujours étonné que... Moi, si quelqu'un t'arrivait avec un manche de bâton de hockey pour m'initier là, quand je jouais au hockey, là, j'y aurais cassé sa tête. Je suis trop surpris que ça arrive jamais, ça, ces affaires-là, que les gens se soumettent aussi facilement. Monsieur Courtois, il avait déjà annoncé qu'il sortirait. Fait qu'il a dû se dire, hey, moi là, c'est bol, je vais partir tout de suite. Ben, c'est correct. Je pense que, Cecchini?
Mario Cecchini.
Je pense qu'il va faire une bonne job. Ça arrive à point nommé. Faut que le hockey change à la même vitesse que le reste de la société change. C'est juste ça, tu sais. Mais c'est élevé. C'est vraiment élevé.
Mais c'est dur à croire. On savait qu'il pourrait y avoir des initiations pas trop intelligentes, ouais, mais ouais, à ce ouais, point-là... Là,
oh, la crème à barbe, ça, ouais, ça. Ouais, OK, mais les manches, pour l'attacher... Pour, ouais. Hey, écoute, ouais, je pense, tu vois ça dans un film, tu fais, c'est un peu exagéré.
Comment tu réagis quand tu vois des Félix Auger-Aliassime, Michael Kingsbury, qui sont dans des sports individuels puis qui performent à ce niveau-là?
On a rencontré aussi des athlètes de sport individuel et le sacrifice de soi que ça prend pour atteindre ce niveau-là, c'est difficile à s'imaginer ce que c'est. Parce que, tu sais, Félix Auger-Aliassime, bien entouré de ça, mais il en a fessé des balles tout seul quand il était petit cul, là, tu sais. À un moment donné, tu t'écœures puis tu veux jouer aux jeux vidéo, j'imagine. Mais de persévérer là-dedans, tu sais, des filles comme Marianne Saint-Gelais, puis qui ont pas eu de vie pendant tout ce temps-là. Moi, j'ai bien de l'admiration, puis bien de la, comment dire, de la compassion, ça, parce qu'il te manque un bout de ta vie, je pense. Tu sais, quand tu prends ta retraite après, tu fais, ah, mon Dieu, j'ai jamais...
Moi, j'avais demandé à Michael Kingsbury, tu sais, quand t'es en haut, là, puis t'es tout seul, là, puis t'es des victoires, t'as un stress, me concentre.
Ouais,
c'est, nous autres, ça. On serait morts, traumatisés, là, en haut de peur.
Ils
là.
Ont un autre genre de vision complètement. De l'affaire, eux autres. C'est bien, puis tu sais, le rythme cardiaque ralenti au lieu d'augmenter, ce que nous autres on fait, c'est bien impressionnant.
Puis il parle à sa mère.
Ah,
puis sa mère lui dit,
fais attention.
C'est pas, on sait que tu peux aller vite, puis t'es bon.
Passe-toi, tu peux retrancher un centime. Non, fais attention.
Fais attention, t'es capable, ouais. Mais fais attention.
Mais oui. Ça, c'est la bonne attitude aussi.
Gildard, merci beaucoup d'être venu ce matin.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Maintenant, Catherine est avec nous et on a pu lire la chronique de Hugo Dumas ce matin dans la presse qui, d'abord, nous dit que Véronique Cloutier ne va plus animer le gala des Gémeaux et qu'un certain nombre de producteurs qui ont décidé de se pousser, là, que ça les intéresse pas, puis que pour des... En fait, appelons ça des dissidences historiques, là, ben ils vont pas être présents aux Gémeaux puis vont pas soumettre non plus les émissions qu'ils ont produites.
Ben faut dire que ça coûte cher aussi participer au prix Gémeaux quand tu veux soumettre une série ou une production. On parle de 400$ pour inscrire une seule catégorie. Donc imaginez si vous inscrivez plusieurs catégories, ça peut être extrêmement cher. Puis on va se le dire, Paul, ça fait longtemps que ça chicane aussi aux Gémeaux. Il y a eu quelques changements, ça a plus ou moins fonctionné. Puis on va en parler avec quelqu'un qui a décidé de claquer la porte justement à l'Académie. C'est Luc Dionne. Salut Luc.
Hey, je peux-tu vous dire que j'avais d'autres places ce matin qu'à te parler des Gémeaux à radio, là?
J'aime ça quand
parce que c'est Paul. Oui. Il m'appelle pas, fait que la seule temps que je peux y parler, c'est quand il arrive des affaires de même.
Ben, c'est sûr. Mais écoute, je me souviens qu'on a déjà eu des conversations, là, puis tu me corrigeras, mais t'avais décidé, à un moment donné, d'essayer de réformer l'Académie puis de faire en sorte que ça soit autre chose, puis visiblement, ça n'a pas marché.
Ben en fait, faut faire attention. Il y a comme quelque chose qui est peut-être pas clair dans l'article d'Hugo ce matin. Moi, j'avais déjà laissé l'Académie en 2000 quelque chose. Ça faisait bien longtemps. Puis quand je suis revenu en télévision, on m'a demandé de revenir à l'Académie. Puis j'étais pas très chaud à ça parce que j'aime pas ça, ces affaires-là, les affaires de concours. Puis finalement, j'ai dit OK, j'ai accepté d'y retourner. Et j'avais, moi, pas depuis de nombreuses années, le début des années, ça fait presque 20 ans d'ailleurs, je préside le comité des auteurs de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques au Canada. Et j'avais, à la demande des scénaristes ou des réalisateurs, j'avais fait des représentations auprès de la présidente à l'époque, Sophie Deschênes, pour lui demander justement qu'on puisse reconnaître le travail des auteurs et des réalisateurs, parce que sans auteur, sans réalisateur, il n'y en a pas de gazette des Prix Gémeaux. Mm-hmm. Tout est bas. T'sais, la fiction occupe une grande partie aux gazettes des Prix Gémeaux, les plus prestigieux remettent ça le soir, puis je me disais, c'est insensé qu'on ne mette pas à l'écran le soir, au moins ceux qui l'ont écrit, ou puis ceux qui réalisent les trucs, tu sais. Et je m'étais volontairement là engagé à ne plus jamais soumettre ma candidature aux Gémeaux en disant, c'est pas une affaire personnelle. Je suis pas narcissiquement très bien nourri dans ma vie, merci beaucoup. Puis tu sais, c'est pas, je fais pas ça par frustration non plus. Les quatre derniers Gémeaux pour les textes, je les ai gagnés. Puis quand je l'ai rencontré, on leur a fait une proposition, c'était un non catégorique. Puis ils ont même pas daigné nous revenir avec une contre-proposition.
Mais pourquoi, Luc?
Je sais pas, j'ai aucune idée. Ben, en fait, je le sais. Regarde, ça va être dur ce que je vais dire ce matin, là, mais habituellement, je dis ce que je pense, je vais continuer ce matin aussi, là. Et eux autres, ils disent pas publiquement, là, mais dans leur tête, on sait bien qu'un auteur puis un réalisateur, c'est pas très sexy à une heure de grande écoute. Puis on aime mieux avoir des vedettes, ça fait des plus beaux galas.
Ouais, mais Luc, les Oscars, là, on donne le meilleur scénario, puis j'ai vu
partout à travers le monde, on fait ça. Il y a juste au Québec. On est une société distincte. On le fait pas ici. C'est ça. Ici, là, on te parque l'après-midi, puis faut l'avoir vécu, là. Je te dis, là, c'est du bétail, là. Ça passe, là, t'es à Way, là, puis on te temple, on attend en ligne, puis ils te remettent le Gémeaux, puis tu sais. Puis encore une fois, moi, j'ai toujours eu un malaise avec ça, là. Tu sais, commencer à comparer des œuvres, puis des auteurs, puis des réalisateurs, là. On fait tout le même métier, là. Puis tu travailles pas moins fort quand tu te plantes, puis je me suis déjà planté dans ma vie, puis c'est comme ça, tu sais, c'est pas...
Mais la question que les auditeurs se posent, parce qu'eux, ils voient pas ça, là, on parle de l'industrie, les gens du milieu, puis ça, mais l'auditeur, lui, il écoute ce qu'il a envie d'écouter, puis gala ou pas, gémeaux ou pas, c'est pas une référence, mais est-ce que c'est important? Toi, je le sais que tu t'en sacs, là, mais il y a du monde pour qui j'imagine que c'est important.
Ben, je veux pas minimiser ceux qui gagnent des Gémeaux non plus, là, tu sais. Il y a des gens qui travaillent fort, puis...
Ben, il y en a beaucoup qui en gagnent, là, quand on voit le nombre de prix qui se promènent, là.
Trop.
Oui,
bien.
En fait, si t'en as pas gagné à date, il y a quand même un problème à quelque part, mais, non, tu sais, je veux pas minimiser ça, mais, tu sais, moi, j'ai toujours dit à Fabienne, le Gémeaux, on l'a trouvé soir. Tu sais, il faut arrêter le moment donné, là. Il y a 1 800 000 personnes qui nous écoutaient. Là, c'en est un Gémeaux le soir après soir. Tu sais, on n'a pas besoin de... Puis il y a tout ça aussi, là, tu sais, des trucs plus pointus par rapport à des trucs plus populaires. Puis c'est ça, là, tu sais, encore une fois, tu sais, tout ça provoque de la discorde, puis tu sais, je peux pas m'associer à une affaire comme ça. Fait que, tu sais, ce que je t'ai dit là, moi j'ai fait ça au mois d'octobre l'an passé. On m'a écrit parce qu'on voulait que je fasse partie d'un comité pour revoir des règlements. Puis là, je leur ai dit que ça m'intéressait pas, puis que tout ça, c'était en fait pour cautionner des trucs que je peux pas cautionner dans la vie. Puis j'ai décidé que c'était fini, puis je voulais même pas en parler, tu sais, je veux pas faire d'esclandre, puis... Mais là, Hugo m'appelle hier, fait que c'était pas pour lui compter des menteries, là, fait que j'ai raconté ce que...
Nous autres, on t'appelle ce matin, fait que c'était pas pour nous compter des menteries non plus.
Ben, ça, toi, Paul, voyons donc. Non, puis il y a l'autre côté aussi, tu sais, je trouve ça absolument scandaleux d'être obligé de donner 25-30 000 piastres, l'argent des contribuables, là, à un organisme qui sert à quoi? À distribuer des trophées partout. C'est moi, je suis une production, là. J'aime autant dire à Fabienne Larouche, là, donne-moi le 30 000, on va le mettre à la production, là, de le mettre dans des candidatures au Galet des Prix Gémeaux, là. Tu sais, ça n'a aucun sens, là. Tu sais, à un moment donné, c'est rendu, là, quand ça te coûte 4, 5, 600 piastres pour inscrire quelqu'un, là. Puis, tu sais, il y a bien de l'ego dans notre milieu, fait que.
À peine.
Salut, Luc.
Bye.
Bye.
C'est 23.